Chapitre 24. Journal phonographique du Dr. Seward, enregistré par Van Helsing.
J'enregistre ceci pour Jonathan Harker. Vous devez rester avec notre chère Madame Mina. Nous partons continuer nos recherches, si je peux toujours les appeler des recherches, car il ne s'agit plus de recherches, puisque nous savons déjà, et recherchons plutôt une confirmation. Mais restez ici, et prenez soin d'elle aujourd'hui. Vous ne pouvez accomplir de tâches plus importantes et plus sacrées. Rien ne pourra amener notre ennemi ici aujourd'hui. Mais laissez-moi vous expliquer, afin que nous apprenions ce que nous quatre savons déjà, car j'ai déjà informé les autres. Notre ennemi est parti. Il est retourné dans son château en Transylvanie, j'en suis aussi certain que si une grande main de feu l'avait écrit sur le mur. Il s'y était préparé d'une façon ou d'une autre, et cette dernière caisse de terre devait se trouver quelque part, prête à embarquer. C'est pour cela qu'il a pris de l'argent, et qu'il s'est dépêché à la fin, de crainte que nous ne l'attrapions avant le coucher du soleil. C'était son dernier espoir, à moins d'aller se cacher dans le tombeau que Miss Lucy, qu'il pensait sa semblable, lui garderait ouvert. Mais il n'en avait plus le temps, faute de quoi il s'est précipité vers sa dernière demeure, si toutefois j'ose m'exprimer ainsi. Il est intelligent, oh tellement intelligent! Il savait que la partie était perdue pour lui ici, et il a donc décidé de rentrer chez lui. Il a trouvé un navire qui prenait la route par laquelle il était venu et y est monté. Nous partons maintenant en quête de ce navire et de sa destination. Quand nous les aurons identifiés, nous reviendrons pour vous le dire. Alors, vous et la pauvre Madame Mina pourrez retrouver l'espoir. Car c'est bien d'espoir qu'il s'agit, si vous y pensez. Tout n'est pas perdu. Cette créature que nous poursuivons a mis des centaines d'années pour venir jusqu'à Londres. Et nous, après avoir pris connaissance de ses plans, sommes parvenus à la chasser en une seule journée. Il a lui-même ses limites, même s'il a le pouvoir d'infliger beaucoup de souffrances, et même s'il ne souffre pas lui-même comme nous. Mais nous sommes forts aussi, chacun dans notre domaine. Et nous sommes encore plus forts tous ensemble. Gardez l'espoir, cher époux de Madame Mina. La bataille ne fait que commencer. Mais nous triompherons à la fin, aussi sûr que Dieu siège dans les cieux et regarde ses enfants. Alors, soyez tranquilles jusqu'à notre retour. Van Helsing.
Journal de Jonathan Harker. 4 octobre.
Quand je fis écouter à Mina le message de Van Helsing sur le phonographe, le visage de la pauvre jeune femme s'éclaira. La certitude que le comte a quitté le pays lui a apporté du réconfort, et le réconfort est sa force. Pour ma part, maintenant que cet horrible danger n'est plus sous mes yeux, il m'est presque impossible d'y croire. Même ma propre terrible expérience dans le château Dracula ne me semble plus qu'un rêve lointain et oublié. Ici, dans la fraîcheur de l'air automnal et en plein soleil, hélas, comment pourrais-je oublier ? Tandis que j'étais perdu dans mes pensées, mon regard s'est posé sur la cicatrice rouge qui balafre le front blanc de mon aimé. Tant qu'elle sera là, il n'y aura pas d'oubli possible. Et même lorsqu'elle aura disparu, son souvenir même me gardera du doute. Mina et moi craignons de rester oisifs et revenons sans cesse sur les comptes rendus. Et d'une certaine façon, même si tout nous semble à chaque fois un peu plus réel, la douleur et la peur s'amenuisent. Nous y trouvons une sorte de fil conducteur qui est réconfortant. Mina dit que, peut-être, nous sommes les instruments du bien absolu. Peut-être cela est-il vrai. Il faut que j'essaie de voir les choses comme elles. Nous n'avons pas encore parlé du futur. Il vaut mieux attendre que nous ayons vu le professeur et les autres, une fois qu'ils auront terminé leurs investigations. Cette journée a passé à une vitesse que je ne croyais plus possible pour moi. Il est maintenant 3 heures. Journal de Mina Harker. October 5, 17 h.
Rapport de notre réunion. Étaient présents le professeur Van Helsing, Lord Godalming, Dr. Seward, Mr. Quincy Morris, Jonathan Harker, Mina Harker. Le docteur Van Helsing décrivit les étapes qui avaient mené, au cours de la journée, à identifier le bateau par lequel le comte Dracula s'était enfui, ainsi que sa destination. Comme je savais qu'il voulait retourner en Transylvanie, j'étais sûr qu'il passerait par l'embouchure du Danube, ou quelque part sur la mer Noire, puisque c'est par là qu'il est arrivé. C'était une piste bien vague qui s'ouvrait devant nous. Omne ignotum pro magnifico. Et ainsi, avec le cœur lourd, nous nous enquîmes des bateaux qui étaient partis en direction de la mer Noire, la nuit dernière. Le comte se trouvait dans un bateau à voile, puisque Madame Mina nous avait parlé du bruit des voiles que l'on hissait. Les bateaux à voile ne sont pas assez importants pour être mentionnés dans la liste des bateaux en partance du Times. Aussi, sur la suggestion de Lord Godalming, nous nous rendîmes chez Lloyd, qui tient registre de tous les bateaux qui mettent à la voile, même les plus petits. Et là, nous découvrîmes qu'un seul bateau en partance pour la mer Noire était parti avec la marée. Il s'agit du Czarina Catherine, et il est parti de Doolittle's Wharf en direction de Varna, afin ensuite de remonter le Danube pour se rendre plus loin en amont. « Nous y voilà, dis-je, c'est le bateau sur lequel est embarqué le comte. Et nous voilà partis pour Doolittle's Wharf. Et là, nous trouvâmes un homme dans un bureau de bois si minuscule que l'homme paraissait plus grand que le bureau. Nous nous enquîmes du départ du Czarina Catherine. C'est un homme qui jure beaucoup, au verbe haut et au visage rougeau, mais c'est un brave homme quand même, et quand Quincy lui donna de sa poche cet objet qui teinte quand il roule et qu'il le plaça dans une toute petite bourse que nous cachâmes au fond de ses poches, il était encore mieux disposé et se présentait même comme notre humble serviteur. Il vint avec nous et posa des questions à beaucoup d'hommes sanguins et rudes. Ceux-là furent également mieux disposés lorsqu'ils eurent moins soif. Le mot « maudit » revenaient beaucoup dans leur bouche, et d'autres choses que je ne compris pas, bien que j'ai deviné ce qu'ils voulaient dire. Mais enfin, ils nous dirent tout ce que nous désirions savoir. Ils nous ont appris, à nous qui étions parmi eux, comment hier, à environ 17 h, un homme était arrivé précipitamment. Un homme grand, mince et pâle, avec un nez haut et des dents très blanches et un regard de feu. Ils nous apprirent qu'il était vêtu tout de noir, à part un chapeau de paille qui jurait à la fois avec son style et avec la mode d'aujourd'hui. Qu'il répandait de l'argent partout, tandis qu'il se dépêchait de chercher un bateau en partance pour la mer Noire. Des gens l'ont fait entrer dans le bureau, puis l'ont accompagné jusqu'au bateau, où il n'a pas voulu embarquer tout de suite. Il semble qu'il se soit arrêté sur le quai, au niveau de la passerelle d'embarquement, et qu'il ait demandé au capitaine de venir l'y trouver. Le capitaine vint, quand quelqu'un lui dit que l'homme payait bien. Et bien qu'il lançât d'abord beaucoup de jurons, il finit par s'entendre avec lui. Alors l'homme mince partit, et quelqu'un lui indiqua où on pouvait louer cheval et carriole. Il s'y rendit, et revint bientôt, conduisant lui-même un attelage sur lequel reposait une grande boîte, qu'il descendit lui-même à terre, bien qu'elle fût assez lourde pour exiger plusieurs porteurs pour la hisser sur le bateau. Il donna de multiples consignes au capitaine, sur l'endroit où la boîte devait être placée et sur la façon de la manipuler, mais cela énerva le capitaine, qui jura dans plusieurs langues, et qui lui répondit que s'il voulait, il n'avait qu'à venir et vérifier par lui-même. mais il refusa, en disant qu'il avait encore beaucoup à faire, sur quoi le capitaine l'avertit qu'il ferait mieux de se dépêcher, car le bateau allait bientôt quitter ce lieu maudit avant la maudite marée. Alors l'homme maigre sourit et dit que, bien sûr, le capitaine devait partir quand il pensait que c'était le bon moment, mais qu'il serait surpris que ce départ fût si prompt. Le capitaine jura à nouveau, en bon polyglotte, et l'homme maigre lui fit une révérence et le remercia, en lui disant qu'il abuserait sans doute de sa bonté, en lui demandant de bien vouloir le laisser monter à bord avant l'appareillage. Finalement, le capitaine, plus rouge que jamais, et dans un nombre de langues encore plus grand, lui dit qu'il ne voulait pas de Français, tous maudits, sur son bateau, maudits également. Puis, après avoir demandé où il pouvait se trouver dans les parages un navire sur lequel il pouvait acquérir des formulaires d'expédition, il s'en alla. Personne ne savait où il était allé, ni de quoi il s'était fichtrement occupé, comme il disait, étant donné qu'ils avaient d'autres maudits chats à fouetter, car il devint vite évident pour tout le monde que le Czarina Catherine n'appareillerait pas à l'heure prévue. En effet, une fine brume commença à remonter de la rivière et épaissit jusqu'à ce qu'un brouillard à couper au couteau enveloppe entièrement le navire et tout ce qui l'environnait. Le capitaine cracha des jurons polyglottes, très polyglottes, polyglottes et surtout généreux en malédictions diverses. Mais cela ne servit à rien. La mer montait et montait. Et il commença à craindre de rater aussi la marée. Il était d'une humeur assez peu affable lorsque, pile à la marée haute, l'homme maigre réapparut à la passerelle et demanda à voir où sa caisse avait été stockée. Le capitaine répondit qu'il espérait que lui et sa vieille boîte, tous deux maudits, seraient stockés en enfer. Mais l'homme maigre ne parut pas se formaliser. Il descendit avec le second pour voir si tout était en place, puis il remonta et resta un moment sur le pont, dans le brouillard. Il avait dû arriver à pied, car personne ne l'avait remarqué. En effet, il y avait d'autres sujets de préoccupation, puisque bientôt le brouillard se dissipa et que tout redevint clair. Mes compagnons, dont la soif et le langage étaient si maudits, riaient beaucoup en me racontant que les jurons du capitaine avaient dépassé leur nombre habituel de langues de référence et n'avaient jamais été aussi pittoresques lorsque, questionnant d'autres marins qu'il croisa le long de la rivière, il se rendit compte que la plupart d'entre eux n'avaient pas vu le moindre brouillard, sauf autour de l'embarcadère. Enfin, le navire sortit à marée descendante et se trouvait sans aucun doute très loin de l'embouchure au matin. À ce qu'ils nous racontèrent, il se trouvait alors en pleine mer. Aussi, chère Madame Mina, devons-nous nous reposer pendant un moment, car notre ennemi est en mer, avec le brouillard à sa disposition, en route pour l'embouchure du Danube. Naviguer à la voile prend du temps, même lorsqu'on file comme le vent, et nous irons beaucoup plus vite par la terre quand nous partirons pour le retrouver. Notre meilleur espoir est d'arriver à le cueillir, quand il sera dans sa boîte, entre le lever et le coucher du soleil, car il ne serait pas alors en position de lutter, et nous pourrions disposer de lui à loisir. Nous avons des jours entiers devant nous pour peaufiner notre plan. Nous savons exactement où il va, car nous avons vu le propriétaire du bateau, qui nous a montré toutes les reçus et tous les papiers possibles. La boîte que nous cherchons doit être déchargée à Varna, et doit être remise à un agent, un certain Ristix, qui prouvera son identité. Et après cela, notre ami le marchand aura rempli sa part du contrat. Quand il a demandé si, puisqu'il semblait y avoir des irrégularités, il devait télégraphier pour demander une enquête à Varna, nous avons répondu non, car ce que nous avons à faire ne regarde pas la police ni la douane. Ce doit être fait par nous seuls et à notre manière. Quand le docteur Van Helsing eut fini de parler, je lui demandai s'il était absolument certain que le comte fût resté à bord du bateau. Il répondit « Nous avons la meilleure des preuves à ce sujet, votre propre témoignage, lors de la transe hypnotique de ce matin. » Je lui demandai à nouveau s'il était absolument nécessaire de poursuivre le comte, car, oh, je redoutais le départ de Jonathan, et je savais qu'il partirait sans aucun doute si les autres y allaient. Il répondit avec une ardeur grandissante. Au début, il était calme. Quand il poursuivit cependant, il devint de plus en plus animé et énergique, jusqu'à ce qu'à la fin, nous puissions faire l'expérience, au moins en partie, de cette supériorité personnelle qui l'avait conduit à occuper la place du maître pendant si longtemps parmi les hommes. « Oui, c'est nécessaire, 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 pour votre bien tout d'abord, et aussi pour le bien de l'humanité. Ce monstre a déjà fait beaucoup de mal, dans le cadre étroit où il se trouvait, et dans le bref temps où il n'était qu'un corps tâtonnant, débile dans l'obscurité, et un esprit ignorant. Tout ceci je l'ai déjà dit aux autres. Vous, ma chère Madame Mina, vous l'apprendrez par le phonographe de l'ami John, ou par votre mari. Je leur ai expliqué que le fait de quitter sa terre aride, déserte, pour venir sur une terre où la vie de l'homme coule à flot comme dans une corne d'abondance, était l'œuvre de plusieurs siècles. Si un autre non-mort avait essayé ce qu'il a entrepris, peut-être que tous les siècles du monde n'y auraient pas suffi. Dans son cas, il faut que toutes les forces naturelles, les plus profondes et les plus occultes, aient concouru d'une manière extraordinaire. L'endroit même où il a vécu en tant que non-mort pendant tous ces siècles est marqué par des anomalies géologiques et chimiques. Il y a des cavernes profondes et des fissures qui atteignent on ne sait quel fond. Il y a des volcans dont les ouvertures laissent jaillir des sources aux propriétés étranges et des gaz qui peuvent tuer ou vivifier. Sans aucun doute, il y a quelque chose de magnétique ou d'électrique dans certaines de ces combinaisons de forces occultes qui affectent la vie physique d'une manière bizarre. Et en lui-même, le comte possédait déjà dès le départ d'immenses qualités. Dans un temps difficile et belliqueux, on le célébrait comme l'homme doté des nerfs les plus solides, du cerveau le plus subtil et du cœur le plus courageux. En lui, des principes vitaux ont trouvé d'une étrange manière un aboutissement. Et de même que son corps reste fort et se développe et lutte, son esprit aussi continue à se développer. Tout ceci sans l'aide du diable, dont il jouit certainement aussi, puisqu'il doit céder aux pouvoirs qui viennent du bien ou qui portent son symbole. Et maintenant regardons ce qu'il est pour nous. Il vous a infecté. Oh, pardonnez-moi, ma chère, de devoir dire de telles choses, mais il est bon pour vous que je le dise. Il vous a infecté de telle façon que même s'il s'arrête maintenant, il vous suffit maintenant de vivre à votre ancienne et douce façon, afin que, à votre heure, la mort, car la mort est le lot commun des hommes, et le rejet de Dieu fasse de vous sa semblable. Cela ne doit pas se produire. Nous avons juré tous ensemble que cela ne se produirait pas. Aussi, nous sommes les ministres sacrés de la volonté divine, afin que ce monde et les hommes pour lesquels son fils est mort ne soient pas livrés aux monstres dont l'existence même est une infamie. Il nous a permis déjà de rédimer une âme, et nous partons comme les anciens croisés pour en rédimer d'autres. Comme eux, nous voyagerons vers le soleil levant, et comme eux, si nous tombons, nous tomberons pour une juste cause. »
Il s'arrêta, et je dis, « Mais le comte ne tirera-t-il pas les leçons de sa rebuffade? Puisqu'il a été bouté hors de l'Angleterre, ne va-t-il pas désormais l'éviter, tout comme un tigre évite le village dont il a été chassé ?»«
Ah ah ! » dit-il, « votre analogie avec le tigre est excellente, et je vais l'utiliser. » Votre mangeur d'hommes, comme ils appellent en Inde le tigre qui a une fois déjà goûté le sang humain, se désintéresse de toute autre proie et ne cesse plus de rôder à la recherche des hommes. Non, de lui-même il n'est pas du genre à se retirer et à rester au loin. Dracula, dans sa vie humaine, a traversé la frontière turque pour attaquer l'ennemi sur son propre sol. Il s'est fait repousser, mais en est-il resté là? Non, il est revenu, et revenu encore, et encore. Admirez sa persévérance et son endurance. Cela fait longtemps que, avec son cerveau d'enfant, il a conçu l'idée de venir dans une grande cité. Que fait-il? Il choisit l'endroit du monde qui concentre pour lui le plus de promesses. Ensuite, il se met délibérément en retrait pour se préparer à la tâche. Il découvre, à force de patience, l'étendue et la nature de son pouvoir. Il apprend de nouvelles langues, il apprend de nouveaux codes sociaux, un nouvel environnement fait de multiples coutumes, en politique, dans la loi, la finance, la science, toutes les habitudes d'un pays nouveau et de gens nouveaux qui sont nés après sa propre mort. Le premier aperçu qu'il s'en fait ne fait que renforcer son désir et aiguiser son appétit. Plus encore, cela nourrit son intelligence, car cela prouve qu'il avait raison dès le début dans ses conjectures. Il a fait tout cela seul. Tout seul, depuis une tombe en ruine, dans un pays oublié. Que n'est-il capable de faire quand le vaste monde de la pensée s'ouvre à lui? Lui qui se rit de la mort, comme nous le savons, qui peut prospérer parmi les maladies qui tuent toutes les autres personnes. Oh, si un tel être venait de Dieu et non du diable, quelle puissance bénéfique ne représenterait-il pas dans notre vieux monde?
Mais nous nous sommes engagés à libérer le monde. Notre labeur doit se faire en silence et nos efforts se déployer en secret, car en ces temps de lumière, où l'homme ne croit plus même à ce qu'il voit, le scepticisme des hommes sages serait sa plus grande force. Ce serait tout ensemble sa protection et son armure, et ses armes pour nous détruire, nous, ses ennemis, qui sommes prêts à mettre en péril jusqu'à nos âmes, pour assurer la sécurité de ce que nous aimons, pour le bien de l'humanité et pour l'honneur et la gloire de Dieu. » Après une discussion générale, il fut décidé que pour ce soir, rien ne serait fermement décidé, que nous devions tous laisser la nuit nous porter conseil et essayer de tirer de tout cela des bonnes conclusions. Demain, au petit déjeuner, nous devons nous retrouver, et après avoir échangé nos conclusions avec les autres, nous devons nous décider sur une ligne d'action définitive. Je ressens une paix merveilleuse et une sorte de soulagement ce soir, comme si une présence malveillante s'était retirée, peut-être. Je n'ai pas réussi à tirer mes conclusions jusqu'au bout, cela m'était impossible, car j'ai surpris dans le miroir la marque rouge sur mon front, et j'ai su que j'étais toujours impure.
Journal du docteur Seward. 5 octobre.
Nous nous sommes tous levés tôt, et je pense que le sommeil a fait beaucoup de bien à chacun d'entre nous. Quand nous nous retrouvâmes très tôt pour prendre le petit déjeuner, nous étions tous de bonne humeur, d'une bonne humeur dont nous n'aurions pas pensé pouvoir faire montre à nouveau. La résistance dont peut faire preuve la nature humaine est vraiment formidable. Qu'un obstacle, quel qu'il soit, soit écarté du chemin d'une façon ou d'une autre, même par la mort, et nous revenons à nos principes premiers d'espoir et de plaisir. Plus d'une fois, tandis que nous étions assis autour de la table, j'écarquillais les yeux en me demandant si les jours derniers n'avaient pas été un rêve. Ce ne fut que lorsque mes yeux se posèrent sur la marque rouge sur le front de Mrs. Harker que je fus ramené à la réalité. Même maintenant, tandis que j'y repense sérieusement, il m'est presque impossible de réaliser que la cause de tous nos ennuis existe toujours. Même Mrs. Harker semble oublier son trouble pendant de longues périodes. C'est seulement de temps en temps, lorsque quelque chose ravive sa mémoire, qu'elle pense à sa terrible cicatrice. Nous devons nous retrouver dans une demi-heure dans mon bureau afin de décider d'un plan d'action. Je ne vois qu'une seule difficulté dans l'immédiat. Je le sais plus par instinct que par raisonnement. Nous devrons tous nous exprimer avec franchise, et je crains que pour quelque mystérieuse raison, la langue de Mrs. Harker ne soit nouée. Je sais qu'elle tire ses propres conclusions, et je ne doute pas un instant qu'elle soit brillante et pertinente. Mais je crains qu'elle ne veuille ou ne puisse les exprimer. J'en ai dit un mot à Van Helsing, et nous en parlerons lorsque nous serons seuls. Je suppose que cet horrible poison qui a pénétré dans ses veines commence à faire effet. Le comte avait un objectif bien à lui quand il lui a donné ce que Van Helsing appelle le baptême de sang du vampire. Eh bien, il peut exister des poisons qui se distillent à partir de choses bénéfiques. En ces temps où l'existence des ptomaïnes reste un mystère, nous ne devons nous étonner de rien. Je ne sais qu'une chose, si mon instinct ne me trompe pas à propos des silences de la pauvre Mrs. Harker, alors, il y a une terrible difficulté, un danger inconnu dans le travail qui nous attend. Le même pouvoir qui lui impose le silence peut lui imposer de parler. Je ne veux plus y penser, car je pourrais, en esprit, déshonorer cette noble femme. Van Helsing me rejoint dans mon bureau un peu avant les autres. Je vais essayer d'aborder la question avec lui.
Plus tard.
Quand le professeur entra, nous évoquâmes la situation. Je me rendais compte qu'il avait un sujet à l'esprit qu'il souhaitait aborder, mais je le sentais hésitant. Après avoir tourné un peu autour du pot, il dit soudainement : Ami John, il y a quelque chose dont vous et moi devons parler seul à seul, en premier lieu. Plus tard, nous pourrons mettre les autres dans la confidence. » Il fit une pause. J'attendis et il reprit. « Madame Mina, notre pauvre, chère Madame Mina, est en train de changer. » Je fus parcouru d'un frisson glacial lorsque je constatai que mes premières craintes étaient confirmées. Van Helsing continua. « Au vu de notre triste expérience avec Miss Lucy, nous sommes maintenant avertis que nous ne devons pas laisser les choses aller trop loin. Notre tâche maintenant est, à vrai dire, plus difficile que jamais, et cette nouvelle complication donne à chaque heure écoulée une importance cruciale. Je puis voir les progrès des caractéristiques vampiriques sur son visage. Celles-ci ne sont encore que très très légères, mais elles peuvent être perçues si on l'observe avec des yeux dénués de préjugés. Ses dents sont un peu plus pointues et, par moments, son regard se fait plus dur. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi maintenant ses fréquents silences, comme c'était le cas pour Miss Lucy. Elle ne parlait plus, même si elle écrivait ce qu'elle voulait qu'on connût plus tard. C'est là ma crainte. Si en effet elle est capable, par le moyen d'une transe hypnotique, de nous dire ce que le comte voit et entend, il n'en est pas moins vrai que lui, qui a été le premier à l'hypnotiser, et qui a bu son sang et lui a fait boire le sien, pourra, s'il le veut, contraindre son esprit à lui révéler tout ce qu'elle sait. J'acquiesçai d'un signe de tête. Il poursuivit. Notre tâche est donc d'empêcher ceci. Elle doit ignorer nos intentions, et alors elle ne pourra pas révéler ce qu'elle ignore. C'est une tâche bien douloureuse. Oh, tellement douloureuse que cela me brise le cœur rien que d'y penser. Mais il le faut. Quand nous nous réunirons aujourd'hui, je dois lui dire que pour une raison que je ne puis lui révéler, elle ne devra pas participer à notre conseil, mais simplement rester sous notre protection. » Il s'essuya le front, inondé de transpiration à l'idée de la souffrance qu'il allait devoir infliger à cette pauvre âme déjà si durement éprouvée. Je savais que je pourrais lui apporter quelque réconfort en lui disant que j'étais moi-même arrivé à la même conclusion. En tout cas, il ne serait plus torturé par le doute. Je le lui dis, et le résultat fut bien ce que j'avais espéré. L'heure de notre grande réunion est maintenant toute proche. Van Helsing est sorti pour s'y préparer, ainsi qu'à sa pénible tâche. Mais, à vrai dire, je suis certain que son but est de trouver un moment pour prier en silence.
Plus tard.
Dès le début de notre réunion, Van Helsing et moi éprouvâmes un véritable soulagement. Mrs. Harker nous avait envoyé un message par l'intermédiaire de son mari pour nous informer qu'elle ne se joindrait pas à nous pour le moment, car elle pensait qu'il était préférable que nous puissions discuter librement de nos projets sans être gênés par sa présence. Le professeur et moi échangeâmes un regard pendant un instant, et d'une façon ou d'une autre, nous étions soulagés. Pour ma part, je pensais que si Mrs. Harker prenait conscience du péril, elle évitait également une grande souffrance. Dans les circonstances présentes, nous résolûmes, par un regard interrogateur suivi d'un doigt porté à nos lèvres, de garder le silence sur nos soupçons jusqu'à ce que nous puissions en discuter en privé. Nous nous remîmes à notre plan de campagne. Van Helsing nous exposa d'abord les faits sommairement. Le Czarina Catherine a quitté la Tamise hier matin. Il lui faudra, à sa vitesse maximale, au moins 3 semaines pour gagner Varna. Mais nous pouvons rejoindre ce même endroit par voie terrestre en 3 jours. Maintenant, si nous partons du principe que le navire peut accomplir son voyage en 2 jours de moins, en tenant compte de l'influence que le comte peut avoir sur les conditions météorologiques, et si nous rajoutons une journée entière pour les aléas que nous pourrions nous-mêmes rencontrer, alors nous conservons encore une marge de presque 2 semaines, Ainsi, afin de ne prendre aucun risque, nous devons partir le 17 au plus tard, ce qui nous permettra dans tous les cas d'être à Varna avant l'arrivée du navire. Et nous pourrons faire tous les préparatifs que nous pourrons juger nécessaires. Bien sûr, nous devons être armés contre les êtres maléfiques, qu'ils soient spirituels ou matériels. Ici, Quincey Morris intervint. « Je crois comprendre que le comte vient d'un pays de loups, et il pourrait y arriver avant nous. Je propose d'ajouter des Winchester à notre armement. J'ai une certaine confiance dans les Winchester quand il y a du grabuge aux alentours. Vous vous souvenez, Hart, quand nous avions cette meute derrière nous à Tobolsk? Que n'aurions-nous donné pour un bon fusil à répétition chacun ?»« Bien, » dit Van Helsing, « va pour les Winchester. » Quincey garde toujours la tête froide, mais surtout lorsqu'il s'agit de chasse. Encore que cette analogie soit une honte pour la science, plus encore que le loup n'est un danger pour l'homme. En attendant, nous ne pouvons rien faire ici. Et comme je crois que Varna n'est familière à aucun d'entre nous, pourquoi ne pas y aller plus tôt que prévu? L'attente sera aussi longue là-bas qu'ici. Nous pouvons nous préparer ce soir et demain, et ensuite, si tout va bien, nous nous mettrons en route tous les quatre. « Tous les quatre ?» interrogea Harker, nous regardant tour à tour. « Bien sûr !» répondit immédiatement le professeur. « Vous devez rester ici pour veiller sur votre si douce épouse. » Harker resta silencieux un moment, puis dit d'une voix blanche, « Nous parlerons de ceci demain matin. Je veux en discuter avec Mina. » Je pensais qu'il était temps que Van Helsing lui recommande de ne pas dévoiler nos plans à sa femme, mais il ne réagit pas. Je lui lançai un regard appuyé et tout sauté, mais pour toute réponse, il posa un doigt sur ses lèvres et partit.
Journal de Jonathan Harker, 5 octobre, après-midi.
Pendant un long moment après notre réunion, je ne parvenais pas à penser. Ces nouveaux événements avaient mis mon esprit dans un état de stupeur qui ne laissait aucune place à une pensée active. La détermination de Mina à ne plus participer à nos conférences me donnait à réfléchir, et comme je ne pouvais en parler avec elle, je ne pouvais qu'essayer de deviner ses pensées. Je suis maintenant aussi éloigné que possible de toute solution. La réaction des autres en apprenant cette décision m'a aussi déconcerté. La dernière fois que nous avions évoqué ce sujet, nous étions tombés d'accord sur le fait qu'il ne devait plus y avoir la moindre dissimulation entre nous. Mina dort maintenant, calmement et sereinement comme un petit enfant. Elle sourit et son visage rayonne de bonheur. Dieu merci, il y a encore de tels moments pour elle.
Plus tard.
Comme tout ceci est étrange. J'étais assis à regarder Mina dormir et j'en étais venu à être moi-même aussi heureux que possible. La nuit tombait et la terre se couvrait d'ombre tandis que le soleil déclinait. Le silence dans la chambre me sembla de plus en plus solennel. Tout à coup, Mina ouvrit les yeux et, me regardant tendrement, elle me dit « Jonathan, je veux que vous me promettiez quelque chose sur votre honneur, un serment que vous allez me faire à moi, mais solennellement et devant Dieu, et que vous ne devrez pas briser, même si je me jetais à genoux et vous en implorais en pleurant amèrement. « Vite, jurez-le-moi maintenant. »« Mina, » répondis-je, « je ne puis vous faire une telle promesse ainsi, je n'en ai pas le droit. »« Mais, cher amour, » dit-elle, avec une telle intensité d'émotion que ses yeux étaient comme deux étoiles polaires. « C'est moi qui le désire, et ce n'est pas pour moi-même. Vous pouvez demander au docteur Van Helsing si je n'ai pas raison. S'il n'est pas d'accord, alors vous pourrez faire comme vous l'entendrez. Non, plus encore, si vous êtes tous de cet avis, alors vous serez relevés de votre promesse. « Je promets, » dis-je, et pendant un moment, elle sembla formidablement heureuse. Même si pour moi, toute joie restait interdite en présence de la cicatrice rouge sur son front. Elle dit « Promettez-moi de ne rien me dire des plans de campagne que vous dresserez contre le comte. Pas un mot, pas une allusion, pas un sous-entendu, pas tant que ceci sera sur mon visage. » Et elle désigna solennellement sa cicatrice. Je constatai qu'elle était très sérieuse, et je lui répétai tout aussi solennellement « Je le promets ». Et, au même instant, ce fut comme si une porte s'était refermée entre nous.
Plus tard, à minuit.
Mina s'est montrée gaie et enjouée toute la soirée, tant et si bien que chacun semble avoir retrouvé du courage, comme si sa gaieté était contagieuse. Et moi-même, j'ai eu le sentiment que cette terrible chape de terreur qui nous écrasait s'était quelque peu allégée. Nous nous sommes tous couchés tôt. Mina dort maintenant comme un petit enfant. Et c'est merveille qu'elle puisse conserver sa capacité à dormir au milieu de ces terribles événements. J'en remercie Dieu. Cela lui permet au moins d'oublier ses soucis. Peut-être suivrai-je son exemple, comme je l'ai fait pour sa bonne humeur ce soir. Je vais essayer. Oh, un sommeil sans rêve.
6 octobre, au matin.
Nouvelle surprise. Mina m'a réveillé tôt, à peu près à la même heure qu'hier, et m'a demandé de lui amener le docteur Van Helsing. Je pensais qu'il fallait s'attendre à une nouvelle séance d'hypnotisme. Et sans poser de questions, j'allais chercher le professeur. Il attendait de toute évidence une telle visite, car je le trouvais tout habillé dans sa chambre. Sa porte était entr'ouverte, et il avait pu entendre celle de notre chambre qui s'ouvrait. Il vint à l'instant, et en entrant, il demanda à Mina si les autres devaient venir aussi. « Non, dit-elle très simplement, ce ne sera pas nécessaire. Vous pouvez aussi bien le leur raconter. » « Je dois vous accompagner dans votre voyage. » Le docteur Van Helsing était aussi stupéfait que moi. Après un instant de pause, il demanda « Mais pourquoi ?»« Vous devez m'emmener avec vous. Je suis plus en sécurité à vos côtés, et vous serez plus en sécurité, vous aussi. »« Mais pourquoi, chère Madame Mina ? Vous savez qu'assurer votre sécurité est notre devoir le plus sacré. » Nous allons au-devant d'un danger face auquel vous êtes, ou pourriez être, plus vulnérable qu'aucun d'entre nous, à cause de circonstances, de choses qui se sont passées. Il fit une pause embarrassée. En répondant, elle désigna du doigt son front. « Je sais, c'est pourquoi je dois partir. Je puis vous parler tandis que le soleil se lève, mais je n'en serai peut-être plus capable plus tard. » Je sais que lorsque le comte me réclamera, je devrai le rejoindre. Je sais que s'il me demande de venir en secret, j'utiliserai la ruse et la tromperie, même à l'encontre de Jonathan. Dieu sait quel regard elle me lança tandis qu'elle parlait. Et s'il existe vraiment quelque part un ange chargé des archives, il aura sûrement noté ce regard, témoin de son honneur éternel. Je ne pus que prendre sa main dans la mienne. Je ne pouvais parler. Mon émotion était trop forte pour trouver quelque réconfort dans les larmes. Elle poursuivit. « Vous, les hommes, êtes forts. Vous êtes forts de par votre nombre, car vous pouvez affronter ce qui pourrait vaincre la résistance de celui qui me garderait seul. Par ailleurs, je puis vous être utile, car vous pourriez m'hypnotiser et apprendre ainsi ce que j'ignore moi-même. » Le docteur Van Helsing répondit avec gravité. « Madame Mina, comme toujours, vous parlez avec la voix de la sagesse. Vous pouvez venir avec nous, et nous accomplirons ensemble ce que nous devons accomplir. » Après qu'il eut prononcé ces mots, le silence prolongé de Mina attira mon regard sur elle. Elle était retombée endormie sur son oreiller. Elle ne se réveilla même pas lorsque je relevai le store, et laissait entrer le soleil qui illumina la chambre. Van Helsing me fit signe de le rejoindre en silence. Nous allâmes dans sa chambre, et une minute après, Lord Godalming, le docteur Seward et Mr. Morris nous avaient rejoints. Il leur rapporta les paroles de Mina, puis il poursuivit. « Ce matin, nous partirons pour Varna. Nous avons maintenant à prendre en compte un élément supplémentaire, Madame Mina. Oh, son âme est fidèle. Ce fut une torture pour elle de nous en avoir tant dit, mais elle a raison et nous sommes avertis à temps. Nous ne devons laisser échapper aucune chance, et une fois à Varna, nous devons être prêts à agir au moment où le navire accostera. « Que devrons-nous faire exactement ?» demanda laconiquement Mr. Morris. Le professeur fit une pause avant de répondre. « Nous devrons d'abord monter à bord du navire, puis, après avoir identifié la caisse, nous placerons dessus une branche de rosier sauvage, que nous attacherons. Ainsi, il ne pourra en sortir. C'est en tout cas ce qu'en disent les superstitions, et nous devons nous fier aux superstitions pour commencer, car elles furent les croyances des hommes dans les premiers temps, et elles y plongent aujourd'hui encore leurs racines. Ensuite, quand nous en trouverons l'opportunité, quand personne ne pourra nous voir, nous ouvrirons la caisse, et tout ira pour le mieux. « Pour ma part, je n'attendrai pas une opportunité, » dit Morris. « Quand je verrai la caisse, je l'ouvrirai et détruirai ce monstre. » Même si 1000 hommes sont en train de me regarder, et même si je dois être effacé de la surface de la terre l'instant d'après. » Je lui pris instinctivement la main et la trouvai aussi dure que l'acier. Je crois qu'il comprit mon regard. J'espère qu'il le comprit. « Bon garçon !» dit le docteur Van Helsing. « Brave garçon, Quincey est vraiment un homme. Qu'il soit béni pour cela !» « Mon enfant, croyez-moi, aucun d'entre nous ne restera en arrière ou ne sera arrêté par la peur. Mais je me dois de dire ce que nous ferons, ce que nous devrons faire. Tant de choses peuvent arriver et leurs causes et leurs conséquences sont si variées que nous n'en pouvons rien prévoir avant qu'elles ne surviennent. En tout cas, nous devons être armés, et quand le moment final arrivera, notre effort ne faiblira pas. Mais aujourd'hui, mettons toutes nos affaires en ordre. Que tout ce qui concerne ceux qui nous sont chers ou qui dépendent de nous soit réglé, car personne ne peut dire quand ou comment tout cela finira. Quant à moi, toutes mes affaires sont en ordre, et comme je n'ai rien d'autre à faire, je vais m'occuper des préparatifs du voyage. Je vais me procurer les billets et tout ce qui est nécessaire pour le voyage. » Il n'y avait rien de plus à dire et nous nous séparâmes. Je vais maintenant mettre en ordre toutes mes affaires terrestres et me préparer à tout ce qui pourrait survenir.
Plus tard.
Tout est fait, mon testament est fait et au complet. Mina, si elle survit, est mon seul héritier. S'il ne devait pas en être ainsi, alors ce seront les autres qui ont été si bons pour nous qui auront ce que je leur laisserai. Le soleil va bientôt se coucher. L'agitation de Mina me préoccupe. Je suis certain que le coucher du soleil éveille quelque chose dans son esprit. Ces moments sont devenus éprouvants pour nous tous, car chaque lever et chaque coucher de soleil peut cacher un nouveau danger et de nouvelles souffrances, qui, toutefois, sont peut-être aussi les voies par lesquelles le Seigneur nous mènera à un heureux dénouement. J'écris toutes ces choses dans mon journal, car ma chérie ne doit pas les entendre pour le moment, mais quand viendra le jour où elle pourra les connaître, elles seront prêtes. Elle m'appelle.